Tintin est accueilli à bras ouverts par le capitaine. Le soir même, il emmène son jeune ami dans un music hall. Le programme comporte un numéro de prestidigitation dont Haddock voudrait découvrir le secret. Il s'agit en effet du numéro de Bruno, l'homme qui transforme l'eau en vin.
Cette fois-ci, je le découvrirai, son secret. Vous verrez.
Bien sûr, capitaine. Mais vous avez le temps, le programme annonce d'autres numéros avant celui de Bruno.
Surtout, regardez bien comment il fait, lui.
D'accord,
hein,
capitaine, d'accord.
Ah, voilà Rat Dalam le Fakir. Vous allez voir, il est extraordinaire.
Mesdames et messieurs, les expériences que je vais avoir l'honneur d'exécuter devant vous sont le fruit d'un mystérieux pouvoir que m'a été révélé par le célèbre yogi Chandra Patnagarada. Je remercie beaucoup les assemblées. Et maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter les plus grands phénomènes du siècle. J'ai nommé Madama Yamila. Merci pour elle. Madame Yamila, êtes-vous prête?
Oui, ça fait.
Alors, je demande attention. Je vais plonger Madame Yamila dans un état hypnotique. Yamila, Yamila, Erdam, Ichipura, Erdam, Ichipur, Ra, Erdam. Et maintenant, Madame Yamila, pouvez-vous me dire si cette dame blonde, là, dans la troisième rang, est mariée?
Oui, elle est mariée.
Très bien. Quelle est la profession de son mari?
Cinéaste.
Madame, s'il vous plaît.
Mon mari est cinéaste, c'est vrai. Oh.
Des longs voyages, c'est dans un pays lointain. Maya, oh, qui se passe-t-il?
Eh bien, Madame Yamila.
Asseyez-moi. Il souffre. Il souffre d'un mal mystérieux.
Si ce qu'il plaisante, elle est très mauvaise. Mon mari est en parfaite santé.
C'est un mal qui ne pardonne pas. La haine du Dieu Soleil est terrible. Sa malédiction est sur lui.
Mais elle s'évanouit, tonnerre.
Oh, regardez le régisseur qui va faire une annonce sur moi.
Mesdames, messieurs, nous avons une communication personnelle et urgente à faire. Nous nous en excusons. Madame Clermont, nous disons bien Madame Clermont, qui se trouve dans cette salle, est priée de regagner immédiatement son domicile. Son mari vient de tomber gravement malade. Alors, mesdames, messieurs.
Oh, capitaine, vraiment.
C'est la dame blonde, elle quitte la salle.
Oh, ma parole, c'est un coup monté.
Non, je ne crois pas. Clermont est le nom du cinéaste qui accompagnait l'expédition Sander-Sarkmout au Pérou.
Tonnerre de Brest.
Après cet incident, mesdames, messieurs, la direction s'excuse de devoir passer immédiatement au numéro suivant. Voici donc Ramon Zara, le célèbre lanceur de poignard.
Oh, vous allez voir Tintin, c'est un type formidable aussi. Ah, le voilà.
Chut, Bilou, tais-toi. J'ai déjà vu ce tête-là quelque part, moi.
Chut, il installe son matériel. Un poteau de torture devant lequel son partenaire indien va se placer.
Señoras y señores, le numéro que je vais avoir l'honneur d'exécuter devant vous étant extrêmement dangereux, je me permets de vous demander les plus grands silences.
Mais pas de doute, c'est le général Alcazar.
Ah oui?
Oui, je l'ai connu en Amérique du Sud et j'aimerais bien savoir pourquoi il est devenu lanceur de poignards.
Bah, si vous y tenez, nous irons le lui demander pendant l'entraide.
Ouais, bonne idée.
Ah, ça y est, regardez.
Está usted?
Si.
par-dessous la chambre, encore plus difficile.
Oh, ça fait penser des frissons dans le dos, ce numéro 1.
J'avoue qu'il y a de quoi être un peu crispé.
Vous voyez, il encadre littéralement l'Indien de poignard.
C'est vraiment très au point.
Et après ça, señores y señores, je vais écouter devant vous les lancements des poignards, les cieux bandés. Si quelqu'un veut venir me mettre les bandeaux.
Regardez, capitaine, on apporte à l'Indien une petite cible de bois.
Oui, il va la prendre entre ses deux mains et la tenir à la hauteur du cœur. Il y a 3 jours, ça a failli mal tourner. Hein. Oh, le poignard s'est planté juste au bord de la cible.
Ah bon ?
1 centimètre plus haut et c'était le drame.
Está usted chiquito ?
Si !
Extraordinaire, hein ?
Ah oui, c'est vraiment très bien.
Quel coup d'œil, quelle maîtrise !
Oh, vraiment, oui.
Bravo, Ramon, bravo !
Oh, capitaine,
oui.
Je connais aussi l'artiste qui suit, Bianca Castafiore. Je l'ai rencontrée en Cile d'Avis lors de l'affaire du sceptre d'Ottokar.
Mesdames, messieurs, je vais avoir l'honneur d'interpréter pour vous les grands airs des bisous des postes del signor Gounod.
Formidable, hein?
Oui, elle chante fort.
Milou, tais-toi, allons.
Non, ce n'est plus de toi. Non, non, ce n'est plus ton visage. C'est la fille du roi.
On dirait un ouragan.
Quel souffle, quel remous.
Avec une épreuve pareille, c'est pas étonnant. Milou, arrête! Milou!
Mais qu'est-ce que...
Milou, tais-toi! Milou!
Oh, capitaine, je crois qu'il vaut mieux partir, hein?
Vous avez raison. Allons-y, autrement ça va mal finir.
Allons, viens! Tais-toi, tais-toi,
autre personnage célèbre, au pluriel cette fois, le Dupont, avec un Dupont... avec un pluriel assez particulier, puisque Dupont en pluriel prend des dés. Ce sont des personnages qui sont apparus assez tôt dans la série. Et dès le départ, je crois que le portrait était établi. Hein.
Oui, au début, ils étaient désignés par leur matricule et pas par leur nom. Hein. Mais
X-33 et X-33 bis.
Exactement. ce sont des personnages qui ont été amenés à prendre de plus en plus d'importance. Et effectivement, on n'imaginerait plus un album de Tintin dans lequel ils ne font pas au moins une courte apparition. C'est d'ailleurs le grand problème d'Hergé, c'est qu'il s'est entouré d'un grand nombre de personnages extrêmement importants. Bob Demore m'a souvent raconté que chaque fois qu'Hergé imaginait un nouveau scénario, le grand problème c'était de comment va-t-on introduire un tel, que va faire un tel, il fallait absolument trouver un petit rôle pour chacun. Bon. Dans les Picaros, par exemple, on voit bien que les Dupont n'ont qu'un tout petit rôle, mais ce sont eux qui sont chargés d'enquêter sur la disparition de la Castafiore, si je me souviens bien. Bon, et puis finalement, ils finissent au poteau de torture, délivrés in extremis, mais enfin, ils ont un rôle vraiment tout à fait accessoire. Ceci dit, ce qui me frappe chez les Dupont, c'est que contrairement à d'autres couples comiques, on sait que le comique, très souvent, fonctionne sur le principe du couple, bon, parlons simplement par exemple de Laurel et Hardy, dont le costume n'est pas sans rappeler celui des Dupont. On joue sur l'opposition entre les deux personnages, le petit maigre et le grand fort. Bon, c'est Astérix, Obélix, c'est obéi au même principe, on pourrait trouver beaucoup d'exemples comme ça. Alors que les Dupont, c'est exactement l'inverse, on joue sur le mimétisme, le côté vraiment interchangeable entre les deux. Et ce qui est d'autant plus drôle, c'est que les Dupont s'ingénient toujours à faire valoir leur singularité par rapport à leur...
Ils veulent absolument être reconnus.
Ils veulent absolument être reconnus, alors qu'évidemment rien ne les distingue l'un de l'autre, si ce n'est des détails tellement infimes comme la moustache tombante.
Oui, mais au téléphone, ça devient sidérant, évidemment, quand il dit non avec un T. Alors que le seul détail étant la moustache, au niveau oui. de la voix, ça devient assez...
Pour l'interlocuteur, ça ne fait évidemment aucune espèce de différence qu'il ait affaire à Dupont avec un T ou avec un D. Mais eux s'imaginent que c'est très important et ça doit être souligné systématiquement.
Il y en a un des deux, il me semblait avoir remarqué, mais je ne me souviens plus lequel, mais il me semble qu'il y en a un des deux qui est plus stupide que l'autre.
Je dirais même plus, il y en a un des deux qui est moins stupide que l'autre.
Absolument. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a tendance à dire plus souvent, je dirais même plus que l'autre. C'est-à-dire que, est-ce que c'est Dupont avec un D qui lance généralement les propositions et l'autre qui les répète en les approuvant. Et j'avais cru remarquer une fréquence anormale de simples acquiescements, finalement, chez un des deux, et qu'au contraire, le premier se montrait beaucoup plus intrépide dans ses jugements et n'hésitait pas à dire tout seul que c'était son opinion et qu'il la partageait.
Bien, fera une analyse. Moi, ce que je trouve surtout merveilleux dans ces personnages, c'est que, où qu'ils soient, ils détonnent toujours. Ils sont toujours à côté de la plaque.
Oui, comme tournesol d'ailleurs, ça c'est un point.
D'une façon différente, de c'est pas la bêtise.
Oui, et c'est justement, bon, tu dis d'une façon différente, et c'est là, je pense qu'on peut peut-être, à un niveau plus général, voir ce qui est vraiment l'essentiel du comique chez Hergé, et qui a évolué par rapport aux premiers albums, où Tintin était seul avec Milou. Bon, où là, le comique, d'abord, il n'y avait pas de découpage préétabli, donc Hergé travaillait à la petite semaine, et donc c'était souvent le gag à chute, il fallait trouver au moins un gag par page. Et d'autre part, il empruntait beaucoup de ses effets. Son comique était essentiellement un comique visuel. Je pense par exemple dans Tintin au Congo, où Tintin chasse l'antilope et il tire plusieurs fois de suite parce qu'il croit qu'il ne l'a pas atteint. Puis quand il va voir, il en a abattu une quinzaine. Bon. Alors, il y a beaucoup de gags dans les premiers Tintins qui sont des gags qu'on pourrait voir dans les films burlesques américains, et même certains qui sont directement empruntés à ces films burlesques qu'on n'a jamais assez relevés. Je cite un exemple très précis dans Le crabe aux pinces d'or. Tintin se précipite dans une voiture pour poursuivre quelqu'un et au moment où il met le contact, cette voiture ne lui appartient pas bien entendu, bon, au moment où il met le contact, la voiture part en arrière parce qu'elle est accrochée à une dépanneuse qu'on n'avait pas vue, qui était cachée par le coin de la rue. Et bien c'est un gag qui se trouve exactement similaire à ce qu'Hergé a fait dans un film d'Harold Lloyd. Bon, mais il y a beaucoup de gags comme ça qui sont vraiment directement hérités des films burlesques américains. Par la suite, je pense que le grand changement, c'est justement l'arrivée de tous ces personnages dont on parle depuis une heure. Le comique d'Hergé va devenir un comique plus verbal, plus littéraire, plus écrit, et il me semble que son œuvre pourrait vraiment porter le titre que Balzac a voulu donner à la sienne, celui de comédie humaine. Il me semble que rien ne pourrait mieux définir la grande période d'Hergé que ça. C'est-à-dire que Hergé joue sur tous les registres du comique, et chaque personnage est porteur, pourrait-on dire, d'un type de comique différent. Celui des Dupont n'est pas celui du Tournesol, mais même, comme le disait très bien Benoît, ils ne sont pas porteurs d'un seul effet comique comme les personnages de Goscinny, comme le bar d'Assurance Tourix qui veut toujours chanter et qui ne pourra jamais. Bon, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ils ont chacun un éventail de registres. Par exemple, les Tournesols, les Dupont, pour revenir à eux. Oui. Les Dupont, pour revenir à eux, il y a, je dirais même plus, il y a les contrepétries, il y a le déguisement, qui est très important comme effet comique, absolument fondamental. Hein. Pour passer inaperçu, il se déguise toujours. Il y a la maladresse, bien entendu.
Il y a toutes les combinaisons entre ces figures de gag, par exemple. Il y a, disons, l'effet contrepétri ou l'effet lapsus qui les fait systématiquement intervertir les choses, et l'effet du déguisement qui va aboutir au fait que par moment ils veulent prendre le déguisement typique, le costume folklorique, mais qui se trompent de pays, par exemple. Enfin bon, des choses comme ça, ce qui commence à faire un gag déjà relativement subtil. C'est sur ce point-là que j'aurais tendance à m'inscrire en faux contre ce qu'écrivait Paul Vendrome dans son livre Le Monde de Tintin, où il parle, je crois qu'il range le Dupont dans cette catégorie, il parle d'homme de gag. À propos d'Hergé. Et je crois que si on analyse les choses de près, il n'y a pas vraiment d'homme de gag, dans le sens de personnage dont la fonction soit uniquement d'apporter du comique, d'apporter du gag. Je pense qu'il y a presque toujours quelque chose de plus subtil, de plus épais dans le personnage, qui révèle une ressource, et que le personnage qu'on croyait purement comique va à un moment révéler un aspect plus sérieux, le personnage qu'on croyait purement sérieux révèle des ressources tout à fait inattendues. Et ça, c'est très fort, enfin, c'est ça qui change complètement par rapport au fonctionnement de la bande dessinée la plus classique, enfin bon, celle de Charlier, celle de Goscinny, où le personnage qui est gaguesque ne peut être que gaguesque. Et là, l'aspect comédie humaine fonctionne vraiment. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'un personnage qui, pendant un tas d'albums, va être purement gaguesque, tout d'un coup va faire une remarque qui ne le sera pas du tout.
Mm-hmm. Nous allons continuer avec le comique cherché tantôt avec le personnage de Tournesol. J'aimerais bien qu'on l'entende maintenant dans l'un de ses rôles les plus célèbres, c'est la colère dans Objectif Lune.
J'en ai assez, là. J'en ai assez de vos expériences. J'en ai assez, comprenez-vous. Vous voulez aller sur la Lune, eh bien, mais allez-y. Mais sans moi, ratonnier de Brest. Moi, je retourne à Moulinsart, au château. Et continuez à faire le zouave ici, aussi longtemps que vous voudrez.
Oh, je fais le zouave, je... Oh, c'est trop fort. Moi, faire le zouave. Oh, j'exige des excuses. Vous entendez? Mais vous allez me suivre. Et je vais vous montrer, moi, de quelle façon je fais le zouave. Et ces gens qui travaillent là, ils font aussi les zouaves, sans doute. Depuis des mois, des équipes de spécialistes sont sur les dents. Tout ça pour faire les zouaves, sans doute. Hein? Eh bien, nous voici arrivés. Voilà ce qu'il a réalisé, Vivi, le zouave.
Mais c'est une fusée.
Oui, monsieur. Vivi, c'est une fusée. Et c'est cela que vous appelez sans doute faire les zouaves.
C'est avec ce petit bloc que vous comptez aller sur la Lune?
Oui, monsieur. Allez, où? Mais plus vite, entrez dans la fusée. Allez, entrez. Et voici d'abord le poste de pilotage. Eh bien, commencez-vous. C'est autre chose, ça, hein? C'est autre chose que de faire le zouave.
À quoi servent tous ces trucs et tous ces machins?
Tous ces trucs et tous ces machins, monsieur, ce sont des instruments de navigation et de contrôle. Sur le grand tableau de bord se trouvent réunies les commandes du moteur atomique, celles du moteur auxiliaire, le radar, la radio, le téléviseur, le générateur d'air automatique, etc. Vite.
Prodigieux.
Prenez garde, sapristi, prenez garde, là, derrière vous. Vous ne pouvez pas faire attention, non. C'est d'ailleurs par cette trappe que l'on communique avec l'étage inférieur.
Mon Dieu, pauvre monsieur Tournesol. Vous êtes-vous fait mal, monsieur Tournesol?
Je ne comprends pas, que voulez-vous?
Où sommes-nous?
Où sommes-nous? Mes 1000 millions de sabords! Vous le savez mieux que nous où nous sommes, espèce d'anacolyte!
Voyons, monsieur Tournesol, souvenez-vous, vous étiez en train de nous faire visiter votre fusée lunaire, professeur.
Qu'est-ce que j'ai?
Je crains que ce ne soit grave. Je crains qu'il ne soit frappé d'amnésie. Il faut le ramener d'urgence à l'usine et prévenir M. Baxter.
Et quelques instants plus tard...
Monsieur Tintin, c'est grave? Tournesol est amnésique?
Hélas, je le crains bien. Les médecins l'examinent en ce moment.
Alors, messieurs?
C'est difficile à dire. Bien sûr, son état peut s'améliorer. Il ne faut jamais désespérer.
Un cas intéressant, de toute façon. Ah,
mais il faut qu'il guérisse. Lui seul, entendez-vous, connaît le secret du moteur atomique. Sans ça, le voyage dans la Lune est impossible, comprenez-vous? Impossible!
Oui, je vois. Eh bien, nous ferons tout ce que nous pourrons. De votre côté, essayez de le distraire, de réveiller ses souvenirs. Cela donne parfois de bons résultats.
Oui.
Il est possible aussi qu'une émotion violente lui fasse retrouver la mémoire.
Plusieurs jours ont passé.
Moulinsart! Le château de Moulinsart, enfin rappelez-vous, professeur Tournesol. Moulinsart, le brave Nestor! Le capitaine Haddock.
Mais tout ça ne sert à rien. Laissez-moi faire. Il faut le distraire. Donnez-moi ce clairon. Rien. Aucune réaction.
Aucune.
Il faut trouver autre chose. Une émotion violente, peut-être. Essayons ceci. Quelques coups de revolver en l'air.
Allô? Oui? Ah non, c'est Tintin. Oh, hélas, Monsieur Baxter, toujours la même chose. Oui, le capitaine va encore essayer.
Cette fois, ça va barder. Je vais faire le fantôme. Donnez-moi ce drap, là, sur ma tête. Professeur! Regardez.
Regarde,
Trifon, je suis un fantôme.
mortel, car je vais t'emporter chez le diable. Oh, vil sabot. Oh, c'est moi qui dégringole. Ah, si vous croyez que ça m'amuse, moi, de faire le zouave.
Zouave. Zouave. Moi, zouave. Moi, vous avez dit zouave. Oh, c'est trop fort. Mais ça ne se passera pas comme ça.